Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh. Can't anybody see?
Bonjour amis auditeurs, nous recevons aujourd'hui pour ce nouveau carnet de voyage Guillaume Dufour, bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous venez de terminer un voyage magnifique en Slovénie avec un vélo solaire.
Oui, c'est un projet qui est venu pour traverser les Alpes avec un parapente sur le dos. Et comme le vélo ça me fait peur, le parapente c'est lourd, j'ai imaginé un vélo avec une remorque qui m'aiderait un peu. Et j'avais déjà un vélo électrique pour aller au boulot. Et quand j'ai voulu réfléchir à mettre des panneaux solaires sur ce vélo, c'était compliqué. Donc on est reparti avec un ami qui s'appelle Laurent de Aravis Énergie au col de la Gietta en Savoie. On a remonté complètement un vélo avec une alimentation solaire. Donc c'est un prototype parce qu'il n'en fait pas beaucoup, il en fait quelques-uns à la demande parce que c'est des choses qui n'existent pas. Donc on est parti d'un classique VTT et on a remis une batterie, un moteur et des panneaux solaires sur une remorque qui permettent de recharger la batterie au fur et à mesure du voyage.
Vous n'avez pas négligé ce moteur parce que je crois qu'il fait 1000 watts.
Oui, en fait, un vélo classique, c'est 250 ou 350 watts. Ils sont bridés à 250 watts, les vélos classiques. Comme on repartait de quelque chose
de neuf.
Ouais, de neuf, on est parti sur un vrai moteur, et ce qui n'était pas négligeable au vu du poids que je transporte, parce que vélo plus remorque, il y a plus de 80 kilos. Donc quand on rajoute le bonhomme dessus, voilà, ça fait un ensemble roulant qui fait, on va dire, 150 kilos. Voilà, c'est pas anodin, et autant sur le plat, voilà, on peut faire illusion avec un petit moteur, autant en montagne, on voit vite la limite, et même à 1000 watts, on peut le faire sauter, quoi.
Vous avez eu l'occasion de voir la limite puisqu'il est tombé en panne en Slovénie,
l'ensemble. En fait, ce qui est tombé en panne, c'est un petit composant qui permet de,
comme d'habitude,
qui fait le lien, voilà, entre les panneaux solaires et la batterie, et voilà, il y a eu un bug. Et pendant une semaine, je me suis passé de solaire. Ça a été un peu dur, même très très dur,
très,
par,
très dur,
par
ouais.
certains moments sur des gros cols. Après, le gros machin, c'est le gros avantage aussi de ce vélo, c'est qu'il recharge en descente. Donc au lieu de freiner, on produit de l'énergie un peu comme une dynamo. Et ça a vraiment un double avantage. Déjà, c'est une autre source de production d'énergie. Parce que les panneaux, bah, s'il fait un peu gris, ou voilà, c'est pas suffisant. Et d'autre part, ça évite d'être debout sur les freins quand on descend, ou quand on descend un col comme la Bonnette, ou ce genre de col avec une grosse remorque. Les cyclos qui ont déjà fait ça avec une remorque, ils comprendront que c'est agréable d'avoir un frein à moteur plutôt que d'être, d'être debout sur les freins.
Avec ce poids, ouais. Il faut dire que les panneaux solaires, ça fait à peu près 2 mètres par 1 mètre, quoi.
Ouais, 20 sur 1 mètre 20, en gros, dans l'histoire. Mais c'est horizontal, donc ça fait pas de prise au vent. Mais c'est un peu impressionnant, et ouais.
En photo, c'est impressionnant. Donc, on laissera à la fin de l'émission le site sur lequel on peut voir les photos. Les gens que vous rencontrez en Italie, en Slovénie, tout de suite, ils viennent voir de quoi ils retournent.
Ouais, c'est assez surprenant. C'est vraiment un déclencheur de rencontre, ce vélo, parce que dès qu'on s'arrête quelque part, tout le monde vient voir, demander à quoi ça sert, comment ça marche. Même avec mon italien de très 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 bas niveau, puisque voilà, j'ai commencé à apprendre l'italien en passant la frontière.
Ouais.
On arrive à discuter, à échanger, à expliquer un petit peu, à montrer à quoi ça sert, et tout de suite les gens veulent prendre la remorque en photo, etc. Et tout le temps, quand les gens sont derrière moi en voiture, je me retourne, et la plupart du temps ils sont en train de faire une photo du vélo. Je me demande pourquoi ils doublent pas, mais c'est juste qu'ils sont en train de faire une photo du vélo, quoi. Donc
il y a une queue d'un kilomètre à chaque fois que tu te déplaces en Italie.
Je voudrais quand même souligner que j'avais une certaine appréhension à partir faire du vélo en Italie, à traverser l'Italie, parce que j'ai commencé par traverser au plat, et je me disais, waouh, rouler sur des grandes routes avec un vélo et une remorque en Italie, peut-être que tu vas te faire des frayeurs. Et ben, j'ai été vraiment vraiment surpris en bien. J'ai jamais eu peur. tout le monde passe super loin de la remorque. S'il faut attendre 5 minutes, les camions, ils attendent 5 minutes sans râler, sans...
Ouais.
Bah, vive j'ai jamais eu un coup de klaxon. Voilà.
Vive la tolérance italienne. Ouais.
Ouais, j'étais, je voudrais vraiment rendre hommage là-dessus aux Italiens parce que ce n'était pas du tout l'image que j'avais de leur conduite. Après, s'ils passent à 1 mètre de ma remorque, ça arrive qu'ils passent à 2 cm de la voiture en face, mais ça, ils le gèrent bien.
Ouais. Par contre, ils ont des remarques un peu rigolotes. Ils t'ont demandé si c'était pour recharger le téléphone.
Oui, c'était surprenant. Ça venait d'un petit papy qui est venu me voir en me montrant son téléphone et qui m'a fait comprendre que mes grands panneaux, ça servait à recharger le téléphone. Voilà. Quand on sait la puissance que délivrent les panneaux et ce que consomme un téléphone, oui, c'était rigolo.
Alors, à chaque fois que tu fais escale, tu cales tes panneaux avec des bâtons?
Quand je m'arrête, le vélo, je le laisse dans le village où je m'arrête pour aller marcher et voler en parapente. Et... Bon, je le laisse fermer. Mais après, si je veux vraiment qu'il recharge, j'oriente les panneaux bien face au soleil, bien perpendiculaire au rayon du soleil pour que le rendement soit optimal. Et dans ces cas-là, oui, j'utilise mes bâtons de marche qui me permettent de régler les panneaux correctement. C'est une petite astuce toute bête. Ça rend bien service.
Alors, on a compris que le vélo, c'était un outil. Tu as fait 55 jours d'itinérance.
Ouais. Moi, l'idée, c'est surtout d'aller voir les montagnes et de voler en montagne. Je cherchais juste quelque chose où je puisse ranger mon parapente et me déplacer de façon relativement efficace pour avoir le temps de faire tout l'arc alpin en 2 mois.
Donc, tu as fait une trentaine de sommets.
Ouais.
Et 3500 km.
Bah, les 3500 km, c'était ce que je vais appeler des liaisons pour aller d'un point à un autre.
Ouais.
Et après, dans les 3500 km, il y a aussi pas mal de, on va dire qu'il doit y avoir quelque chose comme 3000 km de vélo et 500 km de marche et de parapente. Donc, l'idée du vol rando, hein, peut-être n'est pas pratiquer le parapente pour l'utiliser en déplacement, c'est-à-dire aller faire beaucoup de kilomètres en volant, c'est juste monter, aller se promener sur un sommet en marchant et redescendre en volant dans un air très calme, dans un air du matin, où l'air porte peu, mais où on ne sait pas ce qu'on cherche. On cherche juste à descendre et puis à rejoindre son point de départ, donc moi en l'occurrence le vélo, sans se faire mal aux genoux et puis pas être trop fatigué pour pouvoir continuer derrière à pédaler un peu. Donc voilà, ça permettait d'enchaîner voilà, des randonnées de 1000 à 1500, même jusqu'à 2000 mètres de dénivelé le matin et redescendre au vélo et être capable de faire 50 ou 100 km de vélo après pour aller plus loin. Quoi.
Il faut spécifier aux auditeurs que tu es prof de PS, c'est-à-dire que tu as déjà une pratique très importante.
Ouais, après, c'est pas mon métier qui fait que je pratique. C'est peut-être le temps que j'ai qui fait que je pratique beaucoup.
Ouais, voilà.
Et l'amour que j'ai aussi de me promener en montagne et la chance que j'ai d'avoir du temps libre. Donc, puis dans un département comme le nôtre, voilà, quand on aime marcher, qu'on aime voler, qu'on aime la nature, qu'on aime skier, bah.
Ouais, c'est ouais, un terrain de jeu formidable.
Ouais, on n'est pas privé et il y a moyen de se faire plaisir.
Rappelons que la philosophie de ton voyage, c'était l'autonomie totale et être au plus près de la nature.
Oui, alors, ce qui est venu, ce qui m'a conforté dans cette idée de panneau solaire, c'était je voulais pas être obligé d'aller dans un camping chaque soir pour recharger mon vélo électrique. Et puis c'était vraiment pas mon mode de fonctionnement. Moi j'aime bien m'arrêter. Déjà pour le parapente, je cherchais des endroits où bivouaquer qui correspondent à mes atterrissages.
Ouais.
Et en plus j'aime bien les bivouacs un peu sauvages où je suis un peu tranquille et aller me caler entre deux caravanes avec ma petite tente, ça me plaisait pas. Et après, j'avais quand même dans l'idée de partir avec un chargeur électrique au cas où. Le projet s'est monté un peu vite. J'avais bien ma batterie, mais le chargeur n'était pas arrivé. Donc, je suis parti sans chargeur.
Contraint et forcé. Ouais.
Voilà. Et que mon petit frère m'a ramené un chargeur et quand il m'a rejoint en Italie. Et j'ai voulu le mettre en route 2 jours plus tard et il ne marchait pas. Donc, je me suis dit que résolument, ce voyage, il devait se faire sans chargeur. Et puis, de toute façon, voilà. On allait faire pour que ce soit sans chargeur, quitte à faire des détours s'il pleuvait ou s'il faisait pas beau.
Et en plus, c'était formidable parce que tu voulais que ce soit sans carbone ni nucléaire et ça l'a été.
Voilà.
Alors moi, j'avais envie d'appeler ça Alpi Vol Rando Solaire, mais toi, tu as trouvé mieux, tu as trouvé voleur de cime.
Ouais, voleur de cime, il y a un côté... y a un côté, il faut être là au bon moment. Voilà, il y a un côté, voilà, on joue sur le... C'est un petit peu le hold-up, quoi. Hop, on passe... C'est bon, on vole et on disparaît. Ça me plaît. Ouais, le côté Arsène Lupin me plaît assez.
Et tu as fait des vols magnifiques au Brighthorn, par exemple.
Ouais, mais... alors les vols en haute altitude, c'est un peu la loterie parce que les vents sont souvent plus forts en haute altitude. Donc il y a un paquet d'endroits où je voulais aller voler, comme le Pic Cangallo, le Mont Rose, avec un sommet qui s'appelle la Pointe du Four, qui est assez emblématique, qui est le plus haut sommet suisse.
Ouais.
le Brighton qui est un peu plus loin, qui est un peu plus bas, le Grand Paradis. Et ben, à chaque fois, on est monté avec mon petit frère ou tout seul. À la pointe du four, on n'a pas pu voler parce qu'il y avait trop de vent ou qu'il y a eu la couverture nuageuse. Au Brighton, c'était... le vent n'était pas comme la météo avait dit, mais il n'y en avait pas trop. Donc, petit coup de bol, j'ai pu voler pas du sommet du Brighton qui est à 4002, mais du plateau en dessous qui est à 4000. Mais c'est des vols où on part de 4000 et on va poser à 1500 mètres. Donc, c'est très, 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 très beau. Quoi.
Ouais, des vols magiques. On en reparlera tout à l'heure, mais on va attaquer avec la Slovénie. La Slovénie, tu as été au Triglav, l'endroit le plus connu.
Ouais, alors c'est un petit clin d'œil un peu à toutes les traversées qui se sont faites avant, notamment une traversée qui m'a marqué, qui était la traversée de l'Arc Alpin par Patrick Béraud. Il y a 15 ans de ça, qui était quelque chose de magique où, voilà, Patrick Béraud, c'était déjà un alpiniste hors pair, mais cette traversée où il a combiné une rencontre avec tous ses amis alpinistes, des voies dures partout, et le Triglav, quand on s'intéresse un peu aux montagnes, c'est un sommet mythique pour les Slovènes. Tous les Slovènes essayent d'y aller.
C'est emblématique.
Ouais. Voilà. Et je m'étais dit, j'ai commencé par là-bas.
Je crois qu'il y a des sortes de refuges qui étaient des anciens trucs militaires.
Ah ouais, c'est rigolo. La Slovénie, c'est un peu comme les Dolomites. Il y a beaucoup de constructions militaires en montagne. Et en redescendant du Triglav, donc j'ai pas décollé du sommet parce que c'est un tas de cailloux assez penchés, j'ai pas trouvé une place pour étaler ma voile, donc je suis redescendu un petit peu et je suis tombé dans un paysage complètement lunaire où il y a que des cailloux et des cailloux,
ouais.
sur un vieux bâtiment militaire en déconstruction où il restait quatre murs, un bout de toit, et là-dedans il y avait un monsieur d'une cinquantaine d'années qui était debout là, et je me demandais ce qu'il faisait, et j'ai passé la tête dans un coin de bâtiment, il y avait une toute petite cabane, ça faisait 2 mètres sur 2 mètres, où il y avait un lit et plein de bouquins. Et bon, mon Slovène étant pas exceptionnel, j'ai pas réussi à savoir ce qu'il faisait là. Et puis, ouais, j'ai imaginé plein de choses. C'était un ermite, c'était un gars qui...
Peut-être un écrivain, tout bêtement.
Un écrivain, voilà. Mais bon, survivre là-haut, c'est pas simple, il n'y a pas d'eau.
En Slovénie, tu as suivi, bien sûr, les pistes cyclables, et les pistes cyclables passent à l'intérieur des montagnes.
C'est frontière slovène. Quand on suit l'arc alpin, en fait, il y a une triple frontière, en fait, entre la Slovénie, l'Autriche et l'Italie. Tout à l'est de l'Italie, en fait. Et quand on rejoint l'Italie, effectivement, il y a une très jolie piste cyclable qui emprunte une ancienne voie ferrée. Et la voie ferrée passait dans les tunnels, donc la piste cyclable passe dans les tunnels. Après, je ne l'ai pas toujours pris parce que, comme c'est réservé au vélo, ils limitent en largeur. Donc, avec ma remorque, des fois, je ne passe pas.
Ah ouais, ouais.
Et le problème, c'est que je ne le sais pas forcément quand je rentre dessus. Des fois, c'est à la sortie que c'est limité en largeur, donc ça me fait un peu couiner.
Ouais.
Et puis surtout, avec mon système, je vais un peu plus vite que des vélos classiques ou que les gens qui se promènent avec leurs enfants. Et comme mon panneau, il dépasse un peu de la remorque. Voilà, je pense.
On va reprendre un peu notre souffle avec une pause musicale. Il y a un morceau qui correspond bien à ton aventure, c'est Heureux qui cumulisse de Brassens.
Oui, déjà parce que Brassens et parce que le voyage et parce que aussi les chevaux et la Camargue.
Heureux qui cumulisse a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur. Quelle est belle la liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Rebonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Guillaume Dufour. On a vu donc ton trajet en Slovénie. Tu n'as pas pu faire l'Autriche, je crois, à cause de la remorque.
Ouais, on va dire comme ça. Ça m'a fait rire parce que quand je suis passé à un moment au pied de la frontière autrichienne, il y avait un joli panneau interdit remorque. Donc je me suis dit, bon, définitivement, ce n'est pas pour moi.
Ouais.
Mais de toute façon, je crois que j'avais vraiment décidé de rester côté italien, d'une part pour la météo, d'autre part pour le côté soleil où je vole en direction du soleil. Donc si je suis sur la frontière italo-autrichienne et que je veux voler direction soleil, je vole côté italien de toute façon.
Ouais.
Et puis dernièrement, parce que la cuisine italienne, ça a quand même du bon.
Et il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi les massifs italiens comme les Dolomites.
Les Dolomites, c'est un rêve depuis longtemps d'aller voler sur certains sommets. La Civetta, la Marmolada, c'est des sommets mythiques des Dolomites. C'est vrai que c'est loin d'ici et ça me faisait rager de juste y aller pour 3-4 jours. Là, je les ai traversés.
Le problème, c'est qu'il y a pas mal de forêts, donc tu arrivais à trouver des zones pour latéraux.
Les fonds de vallée sont à peu près ouverts. Après, souvent, il y a des... Donc, on peut se poser. Après, il y a des raides pentes le long et au-dessus, on trouve des décos. Par contre, il faut marcher un petit peu.
Donc après les Dolomites, tu es revenu dans le Val d'Aoste. Tu as attaqué ce dont on a parlé tout à l'heure, le Mont Rose avec la pointe du four que tu voulais absolument faire.
Un petit peu avant le Mont Rose, au Pic de Sangallo, je rejoins mon petit frère et sa famille qui viennent me rejoindre pour une semaine en vacances. Ils ont leur camion et ils me suivent. Et on monte à la pointe du four qui est le sommet du Mont Rose à 4634 mètres.
Ouais, derrière le refuge Margarita. Ouais.
Derrière le refuge Margarita qui est le plus haut refuge d'Europe à 4005 et des brouettes. Et c'est une voie rocheuse en montagne de 200 mètres, mais faut l'atteindre. Ce qui est long, c'est de l'atteindre. Et on fait cette voie avec mon petit frère. C'est la première fois qu'il passait au-dessus de 4005 et il était super à l'aise. Et on est redescendu. On a fait une très très grande journée en montagne. On a dû partir à 8 heures. On est parti avec la première benne. Et derrière, on est redescendu pour décoller un autre sommet qui s'appelle la pyramide Vincent à 4002. Et ce jour-là, on est au sommet de la pyramide Vincent. Il est 6 heures du soir. Les conditions sont idéales pour décoller. Il n'y a pas un souffle d'air, ce qui est surprenant à 4000.
Ouais.
Et la vallée est bouchée. Donc, on ne voit pas le fond de vallée. Donc, on ne peut pas décoller. On pourrait toujours décoller.
Tu pourrais passer à travers le fond, mais
voilà,
tu ne sais pas jusqu'où il va.
Voilà. La précaution, surtout en biplace, étant la première chose à avoir en tête. La première règle à avoir en tête en parapente. On choisit de ne pas décoller. On se dit qu'on va... C'est pas grave. Le refuge n'est pas très loin. Le refuge est 600 mètres en dessous, le refuge Nifeti. La règle du jeu du vol en montagne, être capable de dire on décolle pas, c'est pas grave. Après, c'est grandement facilité parce qu'on a du matériel léger. Donc, faut pas imaginer qu'on est en montagne avec des sacs de parapente énormes. On voit le solo, c'est 3 kilos. Un biplace de montagne, c'est 5 kilos. Donc, on n'est pas trop frustré si on décolle pas trop. Ouais, un peu quand même.
Ouais, mais ce qui compte, c'est de renoncer. Savoir renoncer, c'est le plus dur.
Ben ouais.
En parapente. Ouais. Alors, par contre, tu n'as pas renoncé à un marchand de vélo et qui, lui, t'a...
Un grand moment, ouais. Il n'y a pas eu de renoncement, là.
Ouais, je suis beaucoup aidé.
Voilà, je suis arrivé dans le Val d'Ayas avec des patins de frein à changer. J'avais un vélo qui freinait plus du tout. Donc, j'ai cherché un magasin de vélo. J'ai sympathisé avec un vendeur de vélo. C'était midi, il était en train de casser la croûte au resto à côté. Il me dit, écoute, l'atelier, il est là, tu peux te servir de l'atelier. Il m'a vendu les patins de frein, il avait juste ce qu'il fallait. Et il a commencé à m'amener un pichet de vin pendant que je bricolais parce qu'il s'est dit que voilà, c'était sympa de me payer un coup. Et après, je suis venu discuter avec lui. On a refait le monde tout l'après-midi. Et j'avoue que quand je suis reparti en fin d'après-midi, c'était bien qu'il n'y ait pas de contrôle d'alcoolémie pour les vélos parce que je pense que j'aurais fini à pied.
Mais du coup, ça t'a aidé pour monter au Petit Saint-Bernard parce que tu voulais passer au départ par le Petit Saint-Bernard.
Petit Saint-Bernard, donc après être passé au Brighthorn, après être passé au Grand Paradis, je voulais continuer vers la France, le périple vers la France, pour rejoindre notamment pour Saint-Maurice où j'avais passé ma qualif biplace et où je voulais revoir le moniteur qui m'avait formé. Et donc j'ai remonté le Petit Saint-Bernard et en arrivant en haut du Petit Saint-Bernard, j'ai pris la météo dans un bar et je me suis aperçu que vraiment définitivement les trois jours qui s'annonçaient, les trois jours suivants étaient vraiment pas beaux, avec de la pluie, avec vraiment du mauvais temps côté français. Et voyant les cols que j'avais à passer et sachant que sans solaire c'était quasi impossible pour
ouais,
moi,
exactement.
Et ben j'ai fait demi-tour. J'ai choisi de redescendre côté italien jusqu'à Turin pour remonter vers la France par le col Agnel.
Oh là là, mais tu sais vraiment renoncer, mais là ça te coûte cher quand même.
C'est pas tant le détour en vélo qui me frustre, c'est les montagnes que je vais pas voir côté Savoie. Après. Ce qui me réconforte un tantinet, c'est que sur la Savoie, il y a la Vanoise. Et la Vanoise, on ne peut pas du tout voler. Ouais, c'est un voilà. Parc national qui, contrairement au parc des Écrins, où il y a eu des accords avec les parapentistes, eh ben, sur le parc de la Vanoise, on ne peut pas voler du tout. Ni la Vanoise, ni le Mercantour, mais on en reparlera peut-être. Mais voilà. Donc, un peu frustré de ne pas voir ces montagnes. Après, voilà, je voulais passer au Col Agnel pour voir des amis. Je me dis, bon, ben, je vais y aller par le côté italien et voilà.
Du coup, tu as tenu aussi à terminer au bord de mer, Menton et Monaco.
Oui, ben c'est aussi encore une référence à Patrick Béraud. C'est un peu le bout de la montagne qui finit dans la mer. Il y avait un vol que je voulais faire, qui s'appelle le vol du col du Berceau. Voilà, je suis monté pour le faire, je me suis un peu obstiné et j'ai pris une bonne claque qui m'a dit que ouais, renoncer, voilà. J'avais un peu oublié qu'il fallait savoir renoncer, je me suis mis un peu la tête dans les cailloux, ça m'a rappelé à l'ordre. Et après j'ai rejoint mon ami à Menton, on a navigué en kayak de mer et après je suis remonté en vélo de Menton jusqu'à la maison.
Jusqu'à la maison.
Toujours en volant, et, parce qu'il y avait encore des jolis vols à faire. Hein.
En passant par Monaco, où tu t'es fait arrêter.
Ah, Monaco. J'ai dit, je vais traverser Monaco, c'est rigolo. Et Monaco, il y a plein de tunnels. Et j'ai essayé d'éviter les tunnels, puis je n'avais pas mis ma lampe. Je me dis, bon, et puis je suis obligé de prendre un tunnel à un moment. Et à la sortie du tunnel, les gendarmes, qui m'arrêtent forcément. Et je me dis, c'est bon, ils vont me faire la morale parce que j'ai pas de lumière. Et en fait, non, c'était juste parce que j'étais torse nu et que c'est pas décent à Monaco. Il fallait que je mette une chemise.
Alors justement, on va laisser un site où on peut revoir toutes les photos de ton voyage, notamment quand tu es torse nu et que tu attires la marée chaussée. Alors ce site, c'est xpmag.com.
Ouais, c'est ça doit être mytrip. xpmag.com.
C'est carnet d'aventure.
Voilà, clairement, c'est carnet d'aventure qui a mis en place un site où on peut inscrire toutes les randonnées qu'on fait, qui peut servir de topo aux autres, qui peut donner des idées aux autres, et puis qui est aussi une façon de partager ses photos.
C'est là-dessus qu'on va terminer. Merci Guillaume d'avoir élevé nos esprits du Triglave au Val d'Aoste, au Mont-Rose.
Merci Gilles.
Et merci de nous avoir montré la voie écologique.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?